France Inter, la Terre au carré.
Cyril Dion, 40e lutte enchantée aujourd'hui.
On tient le compte.
On vous écoute.
Vous avez dû le lire ou le voir comme moi dans la presse. Le 10 juin, un adolescent a poignardé une surveillante dans son collège. Dans une sorte de coïncidence macabre, ou peut-être pas, cet événement faisait écho au scénario d'une série sortie peu de temps avant, dont le succès fulgurant a traversé 80 pays, Adolescence, où le héros poignardait lui aussi une de ses camarades. Tous les médias n'ont parlé que de ça pendant deux jours en se demandant fébrilement mais comment un enfant peut-il en arriver à faire une chose pareille. Le 12 juin, le psychiatre Serge Effès sonnait l'alarme sur le plateau de l'émission C'est ce soir. Pour lui, la capacité d'éprouver de l'empathie chez les adolescents serait en chute libre. Parmi les causes de cette situation, l'exposition de plus en plus précoce et prolongée aux écrans. L'empathie se développe au contact des autres, des regards, des conversations, des expériences communes, de la proximité des corps, des peaux, lorsque l'émotion circule entre deux personnes, ou entre une personne et un animal. Constamment, observer le monde par l'intermédiaire d'un écran ne permet pas au cerveau des jeunes enfants d'établir ces connexions, et peut créer un rapport de plus en plus distancié à la souffrance et à la mort.
Chez des adolescents, donc combien de temps un ado regarde un écran en moyenne, Cyril ?
Un adolescent de 15 ans et plus passerait désormais plus de 5 heures par jour devant son écran à regarder des vidéos. Donc ça c'est une étude commandée par l'ARCOM aux instituts médiamétrie et CSA qui le dit. Temps auquel on peut souvent ajouter les jeux vidéo, le temps d'écran pour travailler, donc disons au moins 6 heures, donc au moins un tiers du temps éveillé. C'est en moyenne une heure de plus chaque jour qu'il y a 10 ans, et cette exposition croissante a de multiples conséquences, comme l'a constaté la docteure en psychologie Jean M. Twinge.
Et alors lesquelles par exemple ?
Alors dès 2012, l'année où la proportion d'Américains qui possèdent un smartphone a dépassé les 50%, Twinge observe des changements comportementaux et émotionnels brutaux chez les adolescents. Elle croit d'abord à une erreur, mais ces tendances se confirment les années suivantes. La scientifique avoue ne jamais avoir rien vu de tel en 25 ans de travail sur les différences entre générations. Plus ses travaux se précisent et plus elle mesure à quel point cette nouvelle génération a été façonnée par l'émergence concomitante des smartphones et des réseaux sociaux. Alors certes, ces adolescents sont moins exposés aux accidents de voiture, consomment moins d'alcool, ont des relations sexuelles plus tardives, ça je sais pas si c'est bien, mais ils sont, selon la chercheuse, à la lisière de la pire crise en matière de santé mentale depuis des décennies. Une étude conduite par le Monitoring the Future Survey confirme cette tendance. En gros, depuis 1975, ils interrogent chaque année des lycéens sur des nombreux aspects de leur vie et sur leur sentiment de bonheur. Et les résultats sont édifiants, sans aucune exception. Tous les élèves qui passent plus de temps que la moyenne à pratiquer des activités impliquant un écran se sentent moins heureux que ceux qui passent plus de temps que la moyenne sans écran, et de loin. En réalité, plus un enfant passe de temps devant son écran, plus il a de chances de développer des symptômes dépressifs.
Et on peut imaginer que c'est la même chose pour les adultes ?
Absolument, ce qui n'arrange pas nos problèmes, loin de là. Évidemment, les écrans ne sont pas les seuls responsables de la violence, de l'intolérance, de la dépression. Ces phénomènes sont la résultante d'une myriade de facteurs et existent depuis fort longtemps. Mais ces écrans creusent une tendance. Ils avalent notre temps, fragmentent notre attention, nous enferment dans des bulles de filtres, ça ce sont les algorithmes et les réseaux sociaux particulièrement, ils nous rendent plus perméables à la manipulation, ils nous distancient du réel, et si en plus leur usage massif fait effectivement chuter notre faculté d'empathie, nous avons un très gros problème. Car comme je l'ai déjà évoqué ici, notre capacité à nous mobiliser pour sauver le climat, stopper l'éradication des insectes, des populations d'animaux vertébrés, mais aussi nous dresser pour venir en aide aux autres humains, dépend étroitement de notre faculté à faire grandir notre capacité à l'empathie, à la faire passer de notre cercle restreint, nos amis, nos familles ou nos animaux familiers, à l'ensemble des vivants. Comme le disait Jane Goodall dans le film Animal, on ne protège que ce que l'on aime et on aime que ce que l'on connaît. Donc lutter passe aujourd'hui par une nouvelle voie, le plus possible sortir des écrans, des réseaux sociaux, renouer avec l'expérience directe, tant dans la nature qu'avec les autres humains ou avec les animaux. C'est aussi un enjeu démocratique fondamental. Et ça, c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine pour ma toute dernière lutte enchantée.
Allez faire un stage chez Groingroin, par exemple.
Et bien sûr,
voilà,
je vais y aller.
Mieux que les écrans. À la semaine prochaine, Cyril.
À la semaine prochaine.